Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
France Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
Mais quel beauf! Qui n'a jamais balancé ça, pensé ça, de quelqu'un qu'il jugeait bête, vulgaire, borné? Mais aujourd'hui, le dites-vous souvent, spontanément? Pas sûr, car au beauf a succédé le facho, le bouffon, le kéké, le jackie, le bolos, ou tout simplement le con, éternel en son état. Pourtant, le beauf n'est pas que ça. Mais alors qui? Qui est-il, ce beauf? Il semble être comme le temps chez Saint-Augustin. On le connaît, mais sans parvenir à le définir. Eh bien, essayons quand même et écoutons son créateur, Cabu.
Qu'est-ce que c'est qu'un beauf?
Ça veut dire beau-frère. Je crois qu'il y en a un dans chaque famille, même s'il est cousin ou oncle. C'est le personnage qui embête tout le monde, qui n'a aucun doute. Alors lui, il a que des convictions et il représente le bon sens français, mais il ne se rend pas compte qu'il est complètement manipulé, quoi. Le bon sens va toujours dans le sens de l'idéologie du moment, dominante, comme par hasard. Il faut que je vous dise que... Je suis un beauf aussi, je crois qu'il y a une part de beauf chez tout le monde.
Nous sommes tous des beaufs.
Totalement.
Des beaufs. C'est ça que je voulais dire.
Non, c'est-à-dire quand on ne fait pas attention, moi aussi je suis un beauf, c'est-à-dire quand on a des réactions sans réfléchir sur tel ou tel événement, quand on se laisse porter par les idées reçues, on est un beauf, quoi. Ouais.
Bonjour Gérard Mauger.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS. Vous êtes chercheur au Centre européen de sociologie et de sciences politiques, CNRS EHESS Paris 1. Je dis tout comme ça, oui. Alors c'est quoi pour vous un beauf, Gérard Mauger?
Bah écoutez, j'en ai la vision que tout le monde en a, d'une certaine façon celle que peut énoncer Cabu. Voilà, ça évoque un type de personnage un peu bête et méchant, voilà, pour faire simple, quoi. Bon. Alors, ceci dit, je me suis interrogé, je sais plus très bien à quelle occasion, mais il y a déjà un bout de temps, je me suis interrogé en sociologue sur la naissance de ce personnage et sur l'étrange écho prolongé que ce héros de bande dessinée a eu presque pendant 50 ans, quoi. Bon, c'est un peu surprenant. Donc je me suis interrogé à différentes reprises, j'ai commencé à faire des recherches tout bonnement, hein, pour savoir c'était quoi ce personnage, donc j'ai acheté les albums pour voir à quoi il ressemblait.
Est-ce que ça vous a fait rire?
Oh, parfois, oui, bien sûr, parfois c'est drôle, oui.
Ça vous a parlé, en tout cas, comme personnage.
Oui,
ça
bien
vous
sûr.
A semblé évocateur.
Oui, bien sûr, c'est, bon, c'est une espèce de, c'est devenu une certaine forme d'archétype, d'idéal type, pour parler sociologue, voilà, que tout le monde connaît, ou que la plupart des gens connaissent. Bon, en tout cas, des gens de ma génération connaissent, ne peuvent pas ne pas connaître. Donc je me suis interrogé pour savoir d'où il sortait, quand était-il né, dans quelles circonstances, et aussi comment est-ce qu'on pouvait essayer de comprendre sa pérennité. Voilà, comment comprendre à la fois son succès de masse, son audience considérable, quoi. Bon, il est apparu dans le Larousse il y a bien longtemps, dans le Robert.
En 88.
Voilà, ça, il est apparu dans le petit Robert il y a longtemps aussi. Enfin, bref, voilà, et cette espèce de devenu, il fait partie du langage courant, quoi. Bon, voilà. Donc, c'était une espèce de repère aussi pour situer les gens dans l'espace social, dans l'espace moral plutôt que social, d'ailleurs, on pourrait dire ça,
quoi. C'est quoi la distinction entre espace moral et social?
Ah, bah, l'espace social.
Si en tant que sociologue, vous dites que c'est un idéal type, je m'attendais plutôt à ce que vous parliez d'espace social que d'espace moral.
Bah oui, mais le problème, c'est que c'est un espace social qui est moralement connoté, quoi.
C'est-à-dire, ouais, on va y dire... Qui est moralisant, même.
Bah, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est porteur de stigmates, quoi.
C'est ça.
Beauf, c'est pas un type particulièrement sympathique, quoi. Il est désigné, caractérisé par sa bêtise épaisse, son bon sens, supposé, ce qu'on appelle le bon sens.
Et encore, le bon sens, je trouve ça valorisant.
Oui, encore, il faudrait pas se plaindre. Voilà, oui, mais c'est un peu pire que ça, parce qu'il est franchement quoi, fascisant, quoi. Enfin, il a tous les défauts.
Bah, il est raciste, homophobe.
Machiste, raciste, homophobe, tout ce qu'on peut, voilà, tout ce qui est le stigmatisé depuis fort longtemps, et qui de nouveau l'est aujourd'hui très très fortement. C'est ça qui est amusant. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles vous m'invitez pour en parler
tout
aujourd'hui.
D'une certaine façon,
il est redevenu d'actualité.
Alors voilà, c'est pour ça aussi qu'on vous invite, Gérard Mauger, c'est que le beauf de Cabu, donc un personnage de bande dessinée de planches, est né il y a 50 ans. En fait, précisément, sa vraie naissance, c'est 74, dans le journal Harakiri. Mais effectivement, Cabu dit qu'il a eu cette idée, on l'a entendu dans l'archive, en plus de Bernard Pivot, qui date de 1980, avec son beau-frère et aussi un patron de bistrot de Châlons en Champagne, où Cabu est né. Donc, on s'attend voilà, à parler du beauf par Cabu. Mais c'est vrai que moi, par exemple, je prends mon exemple d'une personne née dans les années 80, je ne savais pas que le beauf devait sa paternité à Cabu. Je pensais que c'était un mot d'argot qui n'était pas du tout une création, mais plutôt une sorte de d'émergence un peu diffuse. Vous voyez, et c'est ça qui est étonnant quand même, avec cette pérennité. C'est quand même que c'est une création, je dirais pas ex nihilo, mais quand même, c'est d'abord un personnage.
Oui, c'est un personnage, mais voilà, il se trouve que quand on se penche un peu systématiquement, comme je l'ai fait moi sur la bande dessinée, on s'aperçoit qu'en fait, on peut l'analyser de façon un peu pédante, peut-être, mais pas tant que ça, d'un point de vue structuraliste, au sens où il est exactement l'inverse, le personnage opposé d'un autre personnage de Cabu, qui est le Grand Duduche. Alors, le Grand Duduche, il est oublié un peu aujourd'hui, mais c'est intéressant pour comprendre ce qu'est le beauf, il faut savoir que c'est l'inverse, exactement l'inverse, le symétrique.
C'est un antagoniste.
Voilà, c'est un antagoniste. C'est exactement, trait pour trait, l'inverse. Vous voyez, c'est comme, je parlais de structuralisme, c'est Lévi-Strauss, vous savez, le creux et le cuit. voilà, c'est ça, c'est le symétrique, quoi. C'est le symétrique inversé. Alors, cette symétrie, on peut la voir graphiquement, dans le personnage. Le Grand Duduche, il est long, élancé, avec des cheveux longs, il a des lunettes, machin, etc., plutôt finiforme. Le beauf qui lui fait face, il est plutôt petit, il est gros.
Il a une moustache,
il a les cheveux courts.
Il est en short ou en marcel.
Voilà, il porte un short et des marcel. Il a des, vous voyez.
Bon, voilà. Ou c'est un costard un peu, j'allais dire un peu beauf.
Ou un costard du redondant. Dimanche, voilà, qu'on met jamais. Enfin, bref, il est l'inverse, symétriquement l'inverse, vous voyez, en termes morphologiques. De ce qu'est le Grand Duduche. Bon, ça se voit aussi en termes vestimentaires. Là, vous voyez, on l'a dit, on l'a évoqué rapidement, le Marcel, machin, tout ça. Bon, pour le beauf, l'autre, il a des pulls trop longs pour lui, fait par sa maman, des jeans, à trous. Voilà. Bon, donc vous voyez, c'est exactement, vous voyez, morphologiquement à l'inverse. Bon. Et par ailleurs, c'est aussi, alors moralement, on y vient, moralement, l'inverse. Voilà. C'est-à-dire que le Grand Duduche, c'est un grand garçon gentil, féministe,
écolo.
Qui est, écolo, antiraciste, pacifiste, voilà, enfin bon, il a toutes les propriétés, valorisées en ce temps-là, et dont l'autre est exactement l'inverse, là aussi, c'est aussi le symétrique inversé. Alors, ce qui est un peu embarrassant, si vous voulez, alors ça c'est un point de vue de sociologue, qui est un peu, mais pas seulement, je crois, c'est que ces caractéristiques physiques du beauf, quoi, elles sont aussi situées socialement. Elles sont tout à fait situées socialement. Il suffit de regarder les statistiques, les données stats de l'INSEE. Vous avez sur la taille, le poids, la morphologie, les vêtements, les goûts. Aussi, oui, on aurait pu, j'ai pas parlé de ça, mais on aurait pu continuer.
Hein. On va le faire, hein, bon, très tout au long de l'émission.
Sur les goûts, sur les goûts culturels du beauf, quoi. Il aime le camping, machin, des choses comme ça. Quoi.
Il aime l'alcool,
il joue à la pétanque, il aime faire la fête, tout ça, voilà.
Oui, bon, et d'ailleurs, il y a une planche que j'ai en tête parce que j'ai sous les yeux l'intégrale beauf de Cabu, hein, qui est disponible aux éditions Michel Lafon. C'est Cabu pendant les vacances de Noël. Donc à Noël, il vomit sur le gâteau en famille. Au jour de l'an, ça vous fait rire. Il vomit sur le gâteau, mais avec ses amis.
Ouais,
donc voilà, il aime l'alcool, il aime faire la fête et il aime vomir.
Voilà, ouais, il est trop quoi. Bon, vous voyez, c'est une carrière. Alors le problème, c'est que voilà, ce que j'ai commencé à indiquer, c'est qu'au fond, si on s'en tient aux statistiques de l'INSEE ou aux enquêtes pratiques culturelles des Français, on dirait le beauf, c'est un archétype des classes populaires. Voilà, il est d'une certaine façon une espèce d'incarnation résumée, stéréotypée, idéal typisée, si j'ose dire, de ce que sont les classes populaires en France. C'est-à-dire qu'on attribue, vous voyez, en créant ce personnage-là, et Cabu, sans le vouloir, sans, je ne vais pas lui prêter de mauvaises intentions, mais de fait, il le fait, quoi. Il le fait, c'est-à-dire qu'au fond, il prête, voilà, à un certain type situé socialement, des caractères, des goûts, des dégoûts, des aversions, des attitudes, etc., qui sont celles qu'on ne peut pas ne pas rapprocher des classes populaires. C'est le beauf, c'est tout, sauf moi. Hein. Il y a du beauf en nous, bon.
Voilà, c'est ça, j'allais rebondir là-dessus, Gérard Mauger, parce que dans cette archive qui a ouvert l'émission, je le précise, une archive de l'émission Apostrophe de Bernard Pivot, qui date du 25 juillet 1980, on sent bien que Cabu est un petit peu gêné, et pas qu'aux autres tournures, puisqu'il dit « Non, mais le beauf, c'est mon beau-frère. » Mais en fait, on est tous un peu beaufs. Mmh. Et c'est quand même assez paradoxal de dire ça, parce que oui, on est peut-être tous le beauf de quelqu'un, mais le beauf, c'est quand même toujours l'autre. Donc, il y a une sorte d'universalité un petit peu paradoxale qui est revendiquée. Et on peut, je pensais y revenir après, mais on peut l'attaquer tout de suite, cette question-là, Gérard Mauger. C'est que, voilà, ceux qui parlent des beaufs, c'est toujours pour désigner l'autre. C'est souvent très méprisant, très condescendant. Et on pourrait appliquer ça aujourd'hui encore. C'est-à-dire, quand on voit camping, les tuches, les déchiens, à un moment donné, qui a été très à la mode.
Les bidochons,
mais à la même période que Cabu. Voilà, comment on doit considérer ce type de représentation qui, comme plein d'autres étiquettes, les boomers, les hipsters, les bobos fonctionnent très bien, mais découvrent une forme de condescendance sociale, de mépris de classe.
Oui, je pense que vous résumez bien ce dont il s'agit. Alors, je pense que c'est intéressant, pour le coup, ça c'était le deuxième aspect de mes recherches, au-delà de l'aspect structuraliste, comme ça, comparaison terme à terme, c'est l'histoire, tout bonnement. Ça sort d'où? Ça sort quand? Voilà, ça tombe pas du ciel, quoi. 1974, je crois, là, ou 76, je sais plus. Enfin bref, c'est là qu'apparaît. 74, qu'apparaît ce personnage. C'est pas du tout fortuit, je crois. Bon, pour moi, pour l'avoir vécu, parce que j'avais malheureusement l'âge, je suis pas tout neuf.
Vous aviez quel âge en 74?
Je suis en 43, j'avais 31 ans.
Oui, donc vous étiez, vous avez complètement assisté.
Oui, je suis dedans, même, complètement participant, partie prenante de cette histoire-là. Alors en fait, vous l'avez, je crois, rappelé tout à l'heure, en tout cas, 1972, c'est les obsèques de Pierre Auvernet. Je pense que c'est une date, s'il faut en fixer une, parce qu'en histoire, c'est toujours difficile de fixer des dates charnières comme ça. Mais 72, donc les obsèques de Pierre Auvernet, je crois, pour mon souvenir, que ces obsèques d'un militant maoïste tué par un beauf,
devant chez Renaud. Par un vigile.
Voilà, un vigile devant chez Renaud. C'est aussi les obsèques du gauchisme, du gauchisme des années 68, quoi, des années 60, on pourrait dire, parce que c'est plus longtemps que ça. C'est sous sa forme maoïste et parisienne. C'est-à-dire la plus visible, la plus perceptible par tout le monde à cette époque-là. Bon. Donc, voilà. Il y a ça. Il y a cette débandade, on pourrait dire, des mouvements gauchistes sous toutes leurs formes, et en particulier de sa forme la plus visible, en tout cas médiatiquement parlant, en ce temps-là. Et je crois que ce qu'on enterre, c'est à la fois alors le marxisme, qui ne va pas survivre à cette histoire. Il y a une espèce de chute du cours du marxisme dans le champ intellectuel qui est tout à fait spectaculaire et surprenante. Vous savez, quand on a vécu ça, les années 60, tout le monde était marxiste. Il y a mille formes de marxisme, enfin tout le monde l'était, depuis l'école normale supérieure de Louis Althusser à Sartre, qui était encore vivant et actif à cette époque-là, etc. Il y avait mille formes, mais les cathos étaient marxistes aussi. Enfin bon, ça allait de soi. Et le marxisme,
les ouvriers.
Et le marxisme, les ouvriers, parce que le PCF, quand même, ça fait plus de 20%, même après 68, parce qu'il y a une élection qui n'a pas réussi beaucoup à la gauche. Enfin bon. Ça allait de soi. Et donc, ce qui allait de pair avec le marxisme, c'était aussi l'attente messianique, l'attente d'une révolution dont la classe ouvrière, le prolétariat, serait l'avant-garde, l'acteur central, principal. Donc, la classe ouvrière est aussi investie par les gens à cette époque-là, dans cette perspective-là, d'une espèce de rôle, un peu idéalisé, une espèce de vision populiste au sens noble du terme, qui en fait un espèce de messie collectif porteur de l'avenir, d'un avenir révolutionnaire radieux. Vous voyez bon. Et ce qui se passe en 72, je crois, c'est la chute. Vous voyez, la chute de ses espoirs, de ses attentes, etc. Donc aussi, avec des traductions politiques, je l'ai évoqué rapidement, la disparition des mouvements gauchistes, en tout cas. Bon, il en reste quelques machins, mais bon, c'est plus ce que c'était, quoi. Bon. Donc ils tombent, ils disparaissent. Et puis aussi, ça va être suivi de très près par aussi le déclin du marxisme, aussi dans le champ intellectuel. Vous voyez, c'est les nouveaux philosophes, ils vont faire florès très vite. Quoi, de façon un peu inattendue, bizarre.
Et très critique à l'égard
Bien sûr, ils vont déglinguer ça complètement, et déglinguer aussi avec ce prolétariat, cette classe ouvrière qui était censée être l'avenir du monde. C'est-à-dire qu'il y a une espèce, vous voyez, de, après avoir entretenu, cultivé une vision enchantée de la classe ouvrière, du prolétariat, etc., des classes populaires en général, on va les destituer, en quelque sorte, les destituer de ce rôle, et je pense que d'une certaine façon, le personnage du beauf participe de ces entreprises de disqualification, de destitution du sujet de l'histoire, ou de ce qui avait été jusqu'à maintenant, pour beaucoup, en tout cas pour Camus comme pour des tas d'autres, les gens de chez d'Arakiri à cette époque-là, ils étaient aussi des croyants, sous diverses formes, anarchistes plutôt, mais enfin peu importe, c'est, l'essentiel était qu'ils étaient aussi des croyants, en quelque sorte, hein, de cette classe populaire, cette classe ouvrière,
idéalisée, révolutionnaire,
voilà, c'était l'homme de marbre, de Vajda, voilà. Vous voyez, cette espèce de vision enchantée, comme ça, d'un prolétariat héroïque, qui va être destitué, déboulonné. Vous savez, quand on fout les statues par terre, vous savez, après la chute du mur, c'est exactement ça. On met les statues par terre, et d'une certaine façon, le beauf, on peut dire qu'il est un acte de destruction de la statue, quoi. Là, c'est la statue, on la fout par terre, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on lui découvre tous les défauts. Après l'avoir lui crédité de toutes les qualités, dans mon département, sans doute, il y a un sociologue qui disait, la classe ouvrière n'est plus ce qu'elle n'a jamais été, on pourrait préciser, ce qu'elle n'a jamais été que dans l'imagination des intellectuels. Quoi. Bon,
ils avaient créé, voilà, ils avaient fait eux aussi une sorte d'idéal typique de l'ouvrier révolutionnaire.
Voilà, exactement. Voilà.
Et donc
là, d'une certaine façon, je crois que ce personnage, il signe en quelque sorte
la
destitution et du déboulonnage. Vous voyez, et il est le déboulonnage. Voilà. C'est en ce sens-là qu'il est intéressant. Et à mon avis, c'est aussi la raison pour laquelle il a duré si longtemps, et même pourquoi on le réactive
régulièrement.
Voilà.
Il y a eu une bagarre, une grave bagarre, cet après-midi aux usines Renault de Billancourt entre services d'ordre et gauchistes. Le bilan est lourd. Un mort, 14 blessés, dont 8 grièvement atteints. Les faits, Eric Couder.
Il est 15h, c'est l'heure de la débauche de l'équipe du matin. Les ouvriers s'apprêtent à quitter l'usine quand un groupe de gauchistes tente de pénétrer à l'intérieur de l'usine, distribuant des tracts pour protester contre le licenciement d'un travailleur algérien qui fait la grève de la faim. Ils sont armés de barres de fer et de matraques, alors commence une véritable bataille rangée. Les gardiens, inférieurs en nombre, ne peuvent contenir les assaillants, mais les ouvriers viennent au secours des gardiens. Il leur faut une heure pour repousser le groupe d'assaillants avant de pouvoir relever les blessés. Du côté des gardiens, il y en a 8 de conduits à l'hôpital et l'un des assaillants a été touché par une balle. Il devait décéder à son arrivée à l'hôpital. Selon les premiers éléments de l'enquête, deux gauchistes bien connus du service d'ordre de l'usine se trouvaient à la tête du commando. Ils avaient travaillé à l'usine de Billancourt. Les assaillants étant armés de barres de fer, un membre du service de sécurité aurait tiré pour dégager ses camarades violemment frappés. La victime serait l'un des deux chefs du commando. Il s'agirait d'un ancien élève de l'école centrale, René Auvernay, âgé de 24 ans. Il avait été licencié pour son activité maoïste.
Alors, je ne sais pas pourquoi on a appelé Pierre Auvernay, René Auvernay dans cette archive, mais il s'appelle bien Pierre Auvernay. Vous l'avez évoqué, Gérard Mauger. C'est donc ce militant maoïste qui a été tué par un vigile de l'usine Renault à Boulogne-Billancourt. C'était en 72. Vous l'avez dit, Gérard Mauger, la mort de Pierre Auvernay, c'est aussi la mort de la figure idéalisée de l'ouvrier révolutionnaire créé complètement par les intellectuels de gauche qui vont le déboulonner avec le beauf. Alors pourquoi on a eu besoin de déboulonner cette figure de l'ouvrier pour le remplacer par le beauf? Enfin, pourquoi en fait on est passé de l'un à l'autre de manière aussi frappante? Est-ce que ça s'est fait de manière aussi radicale et même peut-être consciente?
Oui, c'est une question compliquée que vous posez là, parce que bon, on pourrait dire il y a plusieurs éléments sans doute qui rentrent en jeu pour essayer de répondre à votre question. Besoin de déboulonner cette classe ouvrière. Je pense qu'il y a plusieurs choses, quoi. Il y a d'une part un espèce d'essoufflement de ce mouvement gauchiste dont je parlais tout à l'heure. Un essoufflement, vous savez, qui traduisait bien un livre qui avait eu un certain succès juste dans l'après-mai 68. Il y a des tas de livres qui sont publiés sur mai 68.
Évidemment, il y en a encore aujourd'hui.
Il y en a encore aujourd'hui. Ça se fait tous les 10 ans.
On réactive.
Bon. Et donc, il y en avait un, je me souviens, de Daniel Blindside et Henri Weber, qui s'appelait « La répétition générale ». Celui-là, ce titre-là était bien trouvé parce qu'à mon avis, il dit bien ce qu'a été l'esprit, l'attente de tas de militants gauchistes de l'époque dont j'étais, hein, pour tout vous dire. Bon, la répétition générale, on se disait, mais ça, bon, ça a été raté ce coup-ci, mais le prochain, la prochaine fois, ce sera la bonne, quoi. Donc il y a une espèce
de révolution manquée.
Voilà, la révolution manquée. Il y manquait le parti ou je sais pas quoi. Bon. Enfin bref, la révolution manquée, mais ça a failli arriver, ce qui n'était pas totalement idiot. Hein. Ça a failli arriver, ça, c'était pas tout à fait faux. Hein. L'idée qu'en mai 68, il s'est passé un événement assez surprenant pour ceux qui l'ont vécu. Vous voyez, c'était cette espèce de déstabilisation de longue durée de structures sociales qu'on croit inamovibles, enfin bon, pérennité à toute épreuve, etc., ce qu'on croit de nouveau aujourd'hui, hein, et qu'on croyait tout aussi bien alors.
Hein, elles ont tremblé.
Et elles ont réellement tremblé, jusqu'à, vous voyez, se demander si ça n'allait pas se foutre par terre, quoi, quand même. C'était tout à fait surprenant. C'est une expérience sociale qui n'arrive pas tous les jours, mais enfin, ceux qui l'ont vécu, c'est un choc, quand même. Bon, en tout cas, pour moi, ça en était un, mais pas moi tout seul, je n'ai rien d'exceptionnel là-dedans. Bon, donc, on pouvait croire, vous voyez, l'espérance révolutionnaire qui était, on pouvait dire, théorique, c'est le manifeste du Parti communiste. Bon, enfin bon, là c'était autre chose que théorique, c'était pratique, quoi. C'était aussi, ça avait l'air d'être possible. Bon, vous voyez, ça a eu l'air d'être possible. Donc on attend. On pense que ça va arriver l'année d'après, quoi. Là, encore quelques mois et c'est bon, quoi. Bon, mais vous voyez, ça dure.
Et rien qui se passe.
Mais il se passe rien. Bah, pas tout à fait rien. Pas tout à fait rien. C'est-à-dire qu'il y a de quoi l'entretenir. C'est-à-dire que c'est aussi une période de lutte ouvrière extrêmement intense. Faut pas. Mai 68, on a
c'est
l'idée.
C'est pas qu'une idéalisation de l'ouvrier révolutionnaire.
Réalité. Il y a une réalité. C'est pas un fantasme. Hein. C'est pas un fantasme. Il y a mai juin 68 qui est quand même la plus grande grève générale qui ait jamais eu nulle part. Bon, pas tout à fait rien. Avant mai juin 68, il y avait déjà eu des grèves ouvrières dures. Réellement. Hein. Il y en a avant, on parle des années 68. Il y a un historien qui s'appelle Xavier Vignat qui a fait une histoire des luttes ouvrières des années 68, dit-il avec raison, c'est que ça commence bien avant, puis ça va finir passablement après. Ça dure, en grosso modo, des débuts des années 60 jusqu'aux années 75, à peu près. Vous voyez? Donc ça dure, quoi. Il y a des raisons de croire. Il ne se passe pas rien, quoi. Il se passe quelque chose, quoi. Bon, donc, voilà.
Mais bon. Alors, enfin, ça commence à s'effriter.
Mais petit à petit, ça s'effrite.
Puisque 72, voilà. Pierre Auvernet, et que 74, voilà. Le Beauf de Cabu.
Voilà.
Et ça, les Bidochons en 78, voilà. Binet.
Ça s'effrite. Ça se détend, et finalement, la répétition générale...
Mais qu'est-ce qui venait venger le Beauf de Cabu? Pourquoi on en a eu besoin? Et alors, je vous pose cette question, je pense que c'est un peu bizarre pour un sociologue d'avoir cette question-là, mais est-ce que c'était conscient? Est-ce qu'il y a eu une sorte de convergence consciente de la gauche déçue, qui est devenue une gauche non plus politisée, révolutionnaire, mais une gauche culturelle, qui allait investir la contre-culture, la musique, la BD, de vouloir dire « vous avez raté les gauchistes politiques et l'ouvrier vous a bien eu, on va se le faire ».
Ouais. Je vais ajouter une chose avant de répondre directement à votre question. Il y en a une deuxième qui est un peu triviale, comme ça, mais une considération sociologique aussi.
Ouais.
Ces militants gauchistes de l'après 68, c'est pour la plupart des étudiants, hein, ou des ex-étudiants depuis pas bien longtemps, etc.
Mais après, ça s'est quand même étendu à toute la France. Hein,
oui, ça a gagné. Ça a gagné du terrain. Bon, ça a gagné des tas de gens. Mais bon. Vous allez faire la révolution à plein temps, c'est bien gentil, mais enfin, au bout d'un temps, vous voyez, on se dit, oh là, oui, mais bon, l'avenir, quoi. Bon, l'avenir professionnel en particulier, quoi. Bon, donc le temps du reclassement, vous voyez, il y a ça aussi, cette conscience qu'il faudrait peut-être penser à des choses sérieuses. On pourrait penser, par exemple, je pense que, vous voyez, aussi, pour comprendre, c'est quoi le gauchisme politique à l'époque. Peut-être, il y a un film actuel qui en parle, L'Établi. Oui,
L'Établi,
c'est le livre.
L'adaptation
d'un livre de Robert Linhart. Robert Linhart, c'est un normalien qui s'est établi, voilà, chez Renault, Citroën, je ne sais plus. Bon, enfin bref, qui s'est établi, vous voyez, qui incarne complètement cet espoir et ces attentes, vous voyez, en allant se fondre, essayer de se fondre dans les masses, être comme dans les masses comme un poisson dans l'eau, disait-on à cette époque-là. Il s'agit de se fondre dans le monde ouvrier, bon, et de faire la révolution avec lui, ou de l'amener à faire la révolution avec soi. Bon, voilà, donc s'il y a ça, mais bon, ça dure un temps, vous voyez, bon, quand on ne croit plus vraiment, on commence à ne plus croire, ou les autres qui sont avec vous commencent aussi à ne plus croire, etc. C'est aussi un aspect de mouvement de débandade, et ça a été la débandade. J'ai assisté, moi je l'ai vécu, je peux vous dire, ça a été
la débandade. Vous aussi, vous avez débandé, si je puis dire.
Oui, bien sûr, oui. Enfin, moi pas, parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je me disais, mais où sont-ils passés? Ils sont tous disparus, quoi. Les voilà ont volé. Je me souviens, c'était très surprenant pour moi. C'était vraiment bizarre. Et il y a une espèce de conversion. Alors voilà, j'en viens au deuxième, au troisième aspect de ce que je voulais vous dire et qui répond plus directement à ce que vous posiez comme question, qui est la mutation, la conversion du gauchisme politique au gauchisme contre-culturel. Alors, ça me semble être un truc tout à fait important et amusant, parce que là aussi, j'ai fait des recherches.
J'ai regardé. J'imagine bien, c'est pour ça qu'on vous a
invité. Je suis allé voir. Donc, il y a un journal qui est tout à fait amusant, il s'appelle Tout, dont Sartre était le directeur à cette époque-là, qui est un gauche, alors, qui fait très bien la charnière entre les deux formes de gauchisme, politique, contre-culturel. On passe de l'un à l'autre. Dans Tout, il y a des personnages relativement célèbres, Guy Hockenheim, par exemple, ou bien Roland Castro, qui est mort il n'y a pas longtemps, étaient des animateurs de ce journal. Tout, qui va opérer cette espèce de conversion idéologique, en quelque sorte, vous voyez, du marxisme pur et dur, révolutionnaire, à la contre-culture made in USA, qui est en train, par ailleurs, d'être importée par Jean-François Bizot, pour ne pas le nommer, dans un canard qui s'appelle Actuel, qui a eu un succès extraordinaire à cette époque-là. C'est-à-dire qu'ils vont importer, Bizot va importer la contre-culture américaine, on va dire de quoi c'est fait tout à l'heure, à ce moment-là. C'est-à-dire que ça tombe opportunément. Il y avait eu des essais d'importation antérieure, mais ça n'avait pas marché, ça n'a eu aucun écho. Mais là, ça va en trouver un. Et ça en trouve un, je crois, parce que justement, ça intervient à un moment où le gauchisme politique et les croyances qu'il véhiculait avec lui est en train de se défaire, de se débander, de se déliter. Donc, voilà, la contre-culture, c'est fait de quoi ? Ça veut dire... Je reviens à l'établi. Il fallait, vous voyez, la figure de l'établi est très idéologiquement significative. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est abandonner son identité étudiante, bourgeoise d'origine ou petite bourgeoise, pour le prolétariat, la classe ouvrière, etc. Et changer d'identité, essayer de se changer complètement, de fond en comble, vous voyez, et radicalement. Bon, alors, voilà, ils disent, oui, non, mais c'est bien gentil, on attend depuis longtemps, mais il se passe rien, quoi, bon, de faire la révolution. Donc, il y a dans tout cette espèce de réhabilitation, finalement, de ce qu'on est. Voilà, on va dire, oui, mais au fond, c'est vrai, pourquoi me mortifier comme ça ? Je suis un petit bourgeois, et moi aussi, j'ai mes désirs, et moi aussi, je veux faire la révolution.
Ah oui, donc finalement, aussi, rebond d'égo narcissisme, d'un narcissisme, d'un égo. D'ailleurs, influencé, j'imagine, par les États-Unis, la culture anglo-saxonne à ce moment-là, avec quand même l'arrivée du libéralisme, du néolibéralisme, surtout, et de la culture de l'individualisme.
Voilà, absolument. Alors, en France, il y a des quelques repères aussi, intellectuel, dans le champ intellectuel. Par exemple, je sais pas, il y a un livre de Deleuze-Guattari qui, à cette époque, a eu beaucoup de succès, c'était l'Anti-Oedipe, et qui était...
La machine désirante.
L'apologie du désir. Je suis, moi aussi, une machine désirante.
Et
je veux accomplir mes désirs, machin, etc. Donc, chacun va chercher ses désirs. Bon, où sont-ils? Voilà, les miens, pas ceux des autres. Les miens, bon. Et alors, on découvre, à cette époque-là, bon, voilà. Et donc, il y a un espèce de prêt-à-porter idéologique disponible... Oui. La contre-culture américaine, qui d'une certaine façon répond à ces questions-là, va proposer des idéaux du type la libération sexuelle, petit 1, d'abord, c'est tout à fait central, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que vont se créer tout un ensemble de mouvements qui, d'une certaine façon, représentent ce que je dis là de façon un peu abstraite. Le MLF, d'abord, le MLF, ça n'est pas de 68, c'est 72, le MLF, c'est important de savoir. Le MLAC, Mouvement pour la Liberté de la Contraception et de l'Avortement, le phare, je parle de Guy Hockenheim, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, le FLJ, le Front de Libération
Des Jeunes. Années 70.
Mais oui, c'est à ce moment-là que ça
Et voulait dire que ces mouvements-là, en fait, ont déplacé un enjeu politique de classe du côté, en fait, d'un enjeu plutôt plus social, sociologique, des questions d'identité qui nous traversaient.
Culturel, on dirait, oui.
Culturel.
Culturel, voilà, pour pas en parler, culturel, quoi. Hein, c'est, voilà,
oui, mais en quoi créer la figure du beauf ? Consciemment ou pas, en tout cas dans un contexte culturel propice à ça, permet de régler ses comptes avec une gauche politique fondée sur la lutte des classes. Enfin, en quoi ça permet de régler ses comptes avec elle ? Et puis, après tout, en plus, parce que si on revient à la figure du beauf, le beauf, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il jouit ? Il est heureux, le beauf, en fait. Il pense à lui, il pense à sa famille, il pense à son barbecue. Donc, finalement, en fait, il représente lui aussi une culture de l'individualisme qui enrobe la contre-culture venue des États-Unis. Donc, finalement, pourquoi lui ? Pourquoi ce type de personnage et pourquoi lui ?
Ben voilà, écoutez, voilà, je crois que la réponse, là encore, il faut faire un petit détour, mais enfin, il me semble que les promoteurs de cette contre-culture et de ces thèmes, de ces fronts de libération en tout genre qui naissent à ce moment-là, va dire qu'elle a, elle aussi, qu'elle se heurte à un ennemi. Et c'est qui l'ennemi ? Voilà. Faut nommer l'ennemi. Alors, on va en inventer, hein. D'une certaine façon, le beauf, voilà, c'est l'invention, hein, une invention culturelle qui correspond à l'ennemi désigné de cette contre-culture avec ses nouveaux fronts, avec ses nouvelles valeurs, etc. Et donc, on va désigner un ennemi qui sera ce mec, là, le beauf. Alors, vous voyez. Prudence, quoi. Qui a vu, va dire, oh, mais ça existe un peu toujours en chacun de nous. Oui, ça peut-être.
Mais il dit ça parce que finalement, au fond, il est gauchiste et dans l'égalité. Donc il est bah, oui, coincé dans ce paradoxe à la fois de désigner un ennemi anti-tout et en même temps d'avoir un principe qui est un principe d'ouverture et de tolérance.
Bah, voilà. Donc c'est un espèce, vous voyez, de, voilà, vous résumez très bien.
Merci.
L'ambiguïté. Non, mais c'est vrai, je crois. L'ambiguïté de ce personnage. C'est-à-dire qu'involontairement, de fait, on attribue toutes ces stigmates aux classes populaires parce qu'on le fait à travers le dessin, le trait, etc. On ne peut pas s'y tromper. On ne peut pas dire, moi, je ne ressemble pas à ce mec-là. Je ne ressemble pas à un beauf. Désolé, mais pas du tout, quoi. Bon, vous voyez, donc, en fait, on désigne, vous voyez, un ennemi, alors qu'on est emmerdant de devoir le désigner sociologiquement. Vous voyez, de dire, ce sont les classes populaires. Cabu et que pas comme ça, ça l'embête de dire ça. Mais de fait, il le fait. Voilà, il le fait contre, d'une certaine façon, c'est ce que je disais au tout début. Involontairement, sans doute. Un peu contre lui-même, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Vous voyez, bon, de fait, chacun a en tête que le beauf, c'est pas moi, hein, c'est ni mes copains. Ils sont pas comme ça. Ils ressemblent pas.
Mais ça, d'ailleurs,
ils adorent pas la pétanque. Ils boivent pas du pastaya.
Et même si on adore la pétanque, Gérard Roger, on n'a pas l'impression de le faire de manière beauf.
Bien sûr, voilà. Bien sûr. Il y a différentes manières de le faire.
Mais c'est ça qui est intéressant avec les étiquettes sociales, Gérard Roger, c'est que, par exemple, là, on parle du beauf, mais on pourrait parler du bobo. Il y a le boomer aussi. Il y a eu le hipster. Bon, ça, c'est plus sur un versant très culturel, mode. Voilà, il y a plein d'autres étiquettes comme ça qui fonctionnent. Ce qui est très bizarre, en fait, c'est qu'elles visent toujours quelqu'un d'autre que soi et qu'on ne parvient pas à les définir précisément non plus. C'est-à-dire qu'on voit très bien à quoi elles correspondent, mais on n'arrivera jamais à dire si, quelles sont précisément les caractéristiques et même si ça correspond vraiment à une réalité sociale.
Oui,
est-ce qu'on peut rencontrer un beauf dans la rue ?
Bah oui. Mais vous voyez, le problème, c'est que finalement, si on devait le désigner clairement, comme moi je le fais là, hein, en disant c'est les classes populaires en fait. Hein. Bon, le beauf, c'est les classes populaires qu'on désigne. Ça ne veut pas dire qu'elles sont réellement comme ça. Hein.
Oui, c'est
mais
ça.
Ce serait, comment dire, avouer un racisme de classe pur et simple, hein, ou un mépris de classe, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors, c'est un peu inavouable, quoi, voilà, c'est pas audicible comme tel. Donc, bon, on le dit sans le dire, voilà. Vous voyez, c'est dire les choses sans les dire vraiment, sans les assumer vraiment. C'est-à-dire qu'au fond, Cabu est dans cette ambiguïté, là. C'est-à-dire, vous voyez, il se cache, quoi, d'une certaine façon. Il le fait, et en même temps, il dit qu'il fait pas ça. Bon, bah, d'accord, mais enfin, il le fait quand même, quoi. Je crois que c'est ça le problème, quoi, vous voyez. C'est ça, et d'ailleurs, c'est aussi ce qui fait l'intérêt. Hein, c'est aussi ce qui fait l'intérêt de cette personnage, de cette invention, parce que voilà, c'est un repère dans l'espace social que tout le monde utilise pour se repérer dans l'espace social, justement. Voilà. Donc, le beauf, c'est pas moi, hein. c'est les autres, quoi. C'est ceux qui sont pas bien, quoi. Voilà. Hein, vous voyez, c'est le négatif de soi-même, quoi. Bon,
l'antagonisme, la figure de soi.
Donc, c'est l'antagonisme aussi d'un monde social relativement situé. Bourdieu l'avait fait très bien dans la distinction, c'était à mourir de rire, il avait appelé ça la petite bourgeoisie nouvelle, il distinguait différentes fractions dans la petite bourgeoisie, et il dit, voilà, ça c'est de la petite bourgeoisie nouvelle, c'est une nouvelle fraction de la petite bourgeoisie qui est en train d'apparaître, d'éclore, avec des nouvelles propriétés qui sont toutes plus ou moins à l'enseigne du parallèle, du différent, de l'autrement, etc. Bon. Qui sont en train d'apparaître à cette époque-là, c'est eux, quoi, les anciens gauchistes reconvertis, ou investis dans différents champs de l'espace social. Voilà, on pourrait développer ça. Je parlais de reclassement des anciens gauchistes. Alors c'est très marrant parce qu'on voit à la même époque, hein, dans les années deuxième moitié des années 70, il y a un éditeur qui s'appelait Solin, qui part à côté de la montagne Saint-Geneviève. Et grosso modo tous les mois à cette époque-là, on voit apparaître une nouvelle revue sur un sujet. Alors, sur une profession particulière, il y a par exemple Tant qu'on a la santé, voilà, qui apparaît, c'est sur le front médical. Il y a le mouvement d'action judiciaire, qui crée aussi quel droit chez cela, etc. Oui. C'est-à-dire que finalement, tous ces gauchistes et ces étudiants finissent par se reclasser, arrivent dans des différentes professions, ils importent leurs dispositions, qui sont des dispositions contestataires, qui ne sont pas comme ça, les dispositions des gens ne disparaissent pas du jour au lendemain, hein, ça dure un certain temps, donc ils y apportent des manières d'aide, la contestation, comme on dit à cette époque-là, vous voyez, dans ces différents champs de l'espace social, et avec eux, qui va très vite devenir une teinture contre-culturelle, vous voyez, c'est-à-dire une teinture, et donc qui vont être les initiateurs en quelque sorte de cette petite bourgeoisie nouvelle en train de se constituer, à la fois en investissant des professions traditionnelles qui vont essayer de redéfinir, ou en définissant des professions nouvelles, hein, de la culture, du soin, de la santé, de la beauté, des soins psycho, machin, etc. Tout ça explose littéralement, hein, à cette époque-là. Et c'est ça qui définit, selon Bourdieu, ce qu'il a appelé la petite bourgeoisie nouvelle. Voilà. Et l'idéologie de cette petite bourgeoisie nouvelle, c'est la contre-culture dont on est en train de parler, quoi. Voilà. C'est eux qui vont être les porteurs de cette contre-culture. Voilà. Je pense que, donc, on comprend, je crois, bon, la première étape, si vous voulez, de la formation d'une classe sociale qui se définit par son envers. Une classe populaire qu'elle ne nomme pas, parce que ça l'embête de la nommer, mais enfin bon, qui est l'envers d'elle-même, en tout cas qui est moralement, ce que je disais tout à l'heure, moralement l'envers d'elle-même, quoi, vous voyez. C'est-à-dire, ce pour quoi elle se bat, eux, ils sont l'adversaire. L'adversaire supposé, parce que, alors, quand même, il faut le dire, où sont les enquêtes qui montreraient que les classes populaires sont systématiquement plus machistes que les autres, plus racistes que les autres, plus homophobes que les autres, etc. On attend toujours, hein. On attend toujours, rien ne le montre. Rien ne le montre.
C'est comme ça, la 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 la, je ne veux pas t'abandonner, mon bébé, je ne veux pas nous achever, tu sais, c'est comme ça.
À propos, Roselyne, t'es sûre que ce sera comme ça?
Sûre, c'est champagne rosé. La,
la, la. Ils sont où, mon bon Emilio? Et j'ai besoin d'eux, moi, hein. J'ai des filles qui fouillent autour de la boutique toute la journée, j'aime pas ça. Il faut qu'ils m'aident à foutre la camelote dans votre cave.
Du calme, mais pour qui il se prend, cet arabe? Fais comme chez toi. Et pas de merde sur mon plancher. On a déjà eu les flics à cause de ton épicerie de merde.
Mais vous êtes bien content de venir dans mon épicerie de merde. Ça ne vous coûte pas cher.
T'entends ça, papa? Explique-lui ce qu'on faisait aux épiciers arabes pendant la guerre d'Algérie.
Tu as déjà expliqué.
T'énerve pas comme ça, tu vas faire virer la couleur.
Bon, ça va, j'ai compris. Je m'en vais.
Colle tes merdes dans leur chambre. Momo verra ce qu'il faut en faire.
Mauvaise femme.
Et Hermès, n'oublie pas de monter la Valstar. Il fait soif.
Et du dissolvant, j'en ai plus.
Et détective, tu ne reçois pas le mardi?
Ce soir réunis, les grands, les petits, on est si bien ensemble. Une même adresse, beaucoup de tendresse, c'est là notre richesse. Et voilà la vie de famille, c'est important.
La vie est un long fleuve tranquille d'Étienne Chatiliez, film, je pense, incontournable pour comprendre la figure du beauf à travers la famille des Groseilles, face à laquelle se tient la famille des Lequesnois, qui n'est pas de la gauche contre-culturelle du tout, au contraire, hein, c'est la haute bourgeoisie catholique de droite. Alors on a tout entendu dans cet extrait, hein. La bière, le dissolvant détective, le racisme à l'égard du petit épicier arabe. Alors voilà, à quelle catégorie sociologique le beauf correspond-il, Gérard Mauger? C'est quoi en fait la fonction sociale, sociologique d'avoir d'une telle étiquette comme le beauf?
Je crois que dans les luttes idéologiques, culturelles, qui nous mettent en cause, nous, vous, journalistes, France Culture, moi, sociologue, mais aussi bien d'autres, qui participent à ce que Bourdieu appelait le champ de production culturelle, bon, donc, oui, les enjeux sont finalement, quoi, faire l'opinion, on pourrait dire. L'enjeu, c'est de faire l'opinion dominante, en tout cas, hein. Bon, l'opinion dominante est une résultante de tout ça, avec des dominants et des dominés dans ces univers. Bon, pardonnez-moi, j'ai perdu.
Quelle est la fonction sociale, sociologique?
La fonction, oui. Alors, la fonction, je crois, elle est une fonction.
Justement, de former l'opinion, c'est
voilà,
ça
de former l'opinion et donc d'imposer, en quelque sorte, une espèce de vision hein, de l'espace social, où un des enjeux centraux pendant longtemps, et encore aujourd'hui, a été la vision qu'on a, la représentation des classes populaires. C'est une représentation qui là, se construit après une longue période d'enchantement populiste, est méthodiquement détruite, disqualifiée, on va disqualifier les classes populaires. Voilà, sans le dire, monsieur.
Oui, mais non, alors, approfondissons ça, Gérard Mauger, qu'est-ce qu'on forme dans l'opinion publique en formant la figure du beauf? Finalement, voilà. on fait une figure ennemie, on stigmatise, on a du mépris de classe sociale, on dit que les classes populaires sont racistes, on dit que voilà, elles sont homophobes, beaufs, complotistes maintenant. Donc, voilà, à quoi ça sert en fait cette formation de l'opinion? C'est pas une opinion nuancée.
Ah bah voilà.
Et même en fait, c'est plutôt un clivage qu'on forme.
Oui, bien sûr. On continue de classe, mais on la déplace quoi. On déplace les fronts, quoi. C'est-à-dire qu'au fond, alors je pense que la traduction et la réponse à votre question, elle est proprement politique, hein. Elle est réellement politique. C'est-à-dire que par rapport à ce qui a été depuis au moins, je sais pas, l'après-guerre, disons, l'alliance de classes traditionnelles entre la fraction intellectuelle des classes dominantes, la fraction la plus intellectuelle des classes dominantes, d'accord, les profs, etc., bon, d'une part, et les classes populaires, qui est l'alliance classique qui s'est nouée en France pour constituer la gauche politique entre 45 jusqu'à 68, 72, là, on y vient. Il s'agit de défaire cette alliance, de déconstruire cette alliance, et d'en construire une nouvelle. Alors, une nouvelle qui se cherche encore, hein, si vous voulez, mon avis, il n'y avait pas de la trouver, hein, d'ailleurs. Mais on y est encore. Et alors, ce qui incarne le mieux la réponse à la question, et pour dire que je ne fantasme pas, hein, j'ai des objets d'enquête, hein, c'est... ce think tank lié au PS qui s'appelait Terra Nova, hein, qui, je sais plus à quelle époque exactement, j'ai plus ça en tête, avait pondu une note qui est restée célèbre, où il disait, il conseillait grosso modo au PS d'après Mitterrand, quoi, bon, grosso modo, hein, et il conseille au PS de renoncer à cette alliance avec les classes populaires qui, disent-ils, sont passées à droite, ceux qui le disent, dont ils disent que les classes populaires sont passées à droite, et donc de construire une alliance qui unisse les diplômés, les femmes et les cités populaires, c'est-à-dire les cités immigrées, quoi, grosso modo. C'est ça, je crois. L'alliance.
Les femmes, les jeunes, toutes classes sociales confondues, et les immigrés, voilà. Considérés comme un groupe homogène étranger aux classes populaires au nom du multiculturalisme, du métissage.
Voilà, grosso modo, c'est ça.
Bref, on va viser les différents fronts issus du gauchisme contre-culturel des années 70.
Voilà, grosso modo, c'est ça. Voilà. Hein, c'est-à-dire que ça va devenir une proposition politique. Qui n'a pas trouvé d'écho, quoi. Je veux dire que ça a trouvé un écho au PS qui fait un espèce de virage dont il est mort. pratiquement jusqu'à aujourd'hui, hein, et c'est-à-dire qu'ils ont essayé, ils ont posé il va pas faire, c'est moins qu'on puisse dire, enfin de 3% pour madame machin, c'est un cadavre, bon,
Anne Hidalgo,
Anne Hidalgo, voilà, c'est un cadavre, quoi. Bon, voilà, c'est un cadavre politique, ils sont morts, quoi. Bon, voilà, alors peut-être qu'ils vont ressusciter, ça je ne m'attarderai pas à ça. En tout cas, sur ces bases là à mon avis, ils iront pas loin, mais enfin bon, laissons ça, quoi. Alors, en tout cas, vous voyez, l'objectif, quoi, je crois, il est proprement politique. C'est-à-dire qu'il est, il joue dans le champ de production idéologique, la représentation du monde, l'opinion, dont je parlais tout à l'heure, faire l'opinion, dominante en tout cas. Donc, et en fonction de cette représentation, de cette vision du monde, adopter une stratégie politique qui lui corresponde. Et donc, qui s'incarne.
D'où
dans
l'importance du beau. Enfin, en fait, il y a une sorte de vertu politique à dire comment on définit le mal, on définit l'ennemi, et par rapport à ça,
voilà,
on va pouvoir se redéfinir, réenchanter son image.
Voilà.
Se valoriser, mais ce qui pose bien, en fait, un gros problème, en fait, un enjeu intellectuel, politique, social, sociologique, de représenter, d'avoir une figure tout à fait adéquate des classes populaires, sans tomber dans des clichés, sans tomber dans des fictions, sans tomber, voilà, parce que bon, La vie est un long fleuve tranquille, ça date de 88. Bah, le moment où le beauf entre d'ailleurs dans le dictionnaire, dans le Larousse. Donc, vous voyez, concordance des temps. Donc, en fait, voilà, le beauf a cette fonction-là, non pas de vouloir percevoir une certaine catégorie sociale, mais de vouloir se revaloriser en face. D'où ce problème-là que je vous pose, Gérard Mauger, c'est qu'en fait, derrière ça se cache l'enjeu de qui, comment, parler des classes populaires sans parler à leur place, sans être dans les clichés, sans être trop à distance ou trop proche peut-être aussi. Voilà, ça c'est un enjeu d'intellectuel, c'est un enjeu pour vous, sociologue.
Oui, c'est un enjeu de sociologue. Alors, écoutez, par rapport à ça, je crois qu'effectivement, il y a des enquêtes intéressantes sur les classes populaires quand même, il y en a eu un peu, quoi. Bon, je pense, par exemple, au travail qu'avaient fait mes amis Stéphane Beau, Michel Pialou, par exemple, qui sont une enquête, à mon avis, tout à fait fondamentale, quoi, sur... voilà, qu'est-il advenu de la classe ouvrière, le titre m'échappe là pour l'instant. Enfin, bon. J'ai participé moi aussi d'ailleurs récemment à une action publique concertée sur une grande enquête sur les classes populaires, bon, qui a donné tout un ensemble de résultats qui sont encore en train de se publier. On est allé enquêter, les voir ces classes populaires. Est-ce qu'elles ressemblent à ce beauf là dont on parle ?
Non, vous ne l'avez jamais rencontré, le beauf.
Bon, non, on peut dire que voilà, il y a des gens qui ont des traits d'eux, quoi. Je ne veux pas dire que les classes populaires soient absentes, soient comment dire exemptes de toute forme de racisme, d'homophobie, des trucs pareils. Je dirais pas ça, pas tous, certains, ça se rencontre, hein, ça peut se rencontrer, mais enfin peut-être pas plus qu'ailleurs. J'ai pas de statistiques. D'ailleurs, il y en a pas à ma connaissance hein, sur ces questions-là. C'est des clichés, quoi, littéralement. Mais quand on fait des enquêtes, bon, on trouve pas exactement ça, quoi. Y compris chez des électeurs. Des gens à qui il arrive de voter pour le Front National. Pas des électeurs du Front National, hein. Ça n'existe pas vraiment, les électeurs du Front National. Il y a des gens qui votent parfois, en tout cas dans les classes populaires, qui votent parfois, et plus souvent qui s'abstiennent. Bon, voilà, c'est sans doute ça qui est très important. Cette disqualification politique des classes populaires par le PS, pour ne pas le nommer, elle a déduit, comme ça, le chiffre très hâtif, très mal examiné, quoi, de statistiques. On a des statistiques électorales quand même, hein, donc on peut regarder qui vote pour qui, quoi.
C'est plutôt depuis, un vote populaire.
Depuis 83, les votes RN, quoi, FN d'abord, puis RN maintenant, sont d'abord très minoritaires par rapport à l'abstention, qui est le parti qui devient petit à petit le parti majoritaire, hein, dans les classes populaires. Mmh. C'est d'abord ça. On va plus voter parce qu'on n'y croit plus aux politiques. Vous voyez, c'est le PS d'après 83, le tourment de la rigueur. On s'est dans les classes populaires, on se dit ouais bon, ça va, on nous a amené en bateau, c'est tout pareil, quoi. Donc on reste chez soi. Voilà, c'est ça l'attitude politique de base qu'on rencontre le plus fréquemment. Je reste chez moi, je m'en fous, quoi. Je m'intéresse pas à leur truc. Voilà, ça change rien pour nous. Donc il y a une espèce de désaffection, si vous voulez, de la gauche de gouvernement, du PS en l'occurrence, qui se met en place, qui se solidifie en quelque sorte au fil du temps, qui prend alors où le RN. Enfin, l'ex-FN devenu RN va essayer de prendre le relais et de s'implanter. Vous voyez, de dire oui. Mais le génie de Marine Le Pen, je crois, a sans doute été d'inventer ce mot d'ordre qui a eu beaucoup de succès en son temps, l'UMPS. L'UMP, c'était, vous voyez, la droite. PS, voilà. UMPS,
oui, de rassembler.
C'est tous les mêmes.
Voilà.
Tous les mêmes. C'est,
de créer, à l'inverse, de la même manière qu'on avait créé la figure du beauf qui portait tous les stigmates, on va créer une figure unie où on mélange tout le monde.
Des hommes politiques disqualifiés dans tous autant qu'ils sont.
Mais c'est vrai qu'il y a cette problématique d'avoir accès aux classes populaires ou de bien les représenter, mais quand je dire représenter, le terme est important, cher Armoger, parce que vous êtes sociologue, vous faites du terrain, mais voilà, dans l'imaginaire, il y a la figure du beauf qui va continuer à prédominer. Ce qui est intéressant, c'est que la figure du beauf, elle a évolué. Même Cabu, d'ailleurs, l'a fait évoluer. C'était plus seulement la classe populaire, mais c'était aussi le nouveau riche, le mec bling-bling, le mec de droite, mais de droite un peu clinquante, type Sarkozy.
Voilà.
Alors, et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire aussi que le beauf, il a une pérennité, mais qu'on n'est plus, on n'a plus tout à fait le même beauf qu'il y a 40 ans.
Bah, écoutez, oui, enfin, je sais pas trop, quoi. Vous voyez, le problème, c'est que par rapport à... Il y a deux registres de discours entre lesquels on se balade tous les deux depuis qu'on parle. Hein, il y a le registre des représentations, qui sont plus ce qu'elles valent, et puis il y a le registre de la réalité sociale, tel qu'on pourrait l'enregistrer à travers des enquêtes, parce qu'on peut pas le deviner.
L'avez dit, dans la réalité sociale, le beauf n'existe pas en tant que tel. Il y a des traits qui se retrouvent, mais il n'existe pas. Alors, en termes de représentation, comment on fait pour avoir une représentation qui est beaucoup plus fine et qui soit peut-être, en fait, parce qu'on a besoin d'une figure antagoniste, mais voilà, qui, en fait, soit capable d'évoluer à travers les années.
Oui, c'est ça le travail des politiques, hein, d'inventer, vous voyez, une
représentation. Des écrivains aussi, des cinéastes.
D'inventer un personnage dans lequel des gens d'un certain univers social puissent se reconnaître. Mais c'est le problème. Non, quand je dis c'est le travail des politiques, parce que un représentant, vous voyez, quand on est un politique, on est virtuellement, en tout cas dans un pays démocratique, on est virtuellement des représentants. Donc on est censé représenter avec tous les sens ambigus hein, qu'il y a dans représenter, c'est-à-dire être à l'image d'eux, proposer une image d'eux dans laquelle les gens puissent se reconnaître comme étant représentés par, etc. Donc ça, c'est leur boulot, après tout, hein, que d'inventer ça. Quand on est un sociologue, qu'est-ce qu'on fait ? On s'aperçoit d'abord, on enquête sur les classes populaires, on s'aperçoit, je sais pas, c'est élémentaire, que c'est un univers fractionné, extrêmement divers. Bon, il faut dire, par exemple, une chose simple. Les classes populaires, aujourd'hui, on peut les définir, tous les sociologues sont d'accord là-dessus, pour dire que ça fait à peu près la moitié de la population active, c'est pas rien, quand même, la moitié de la population active, en incluant là-dedans les employés et les ouvriers. Les ouvriers qui sont, alors, grosso modo, hein, les ouvriers sont majoritairement des hommes, les employés, il faudrait dire les employés EES, on l'entend pas bien, ce sont des femmes. Hein, 80% ce sont des femmes. Bon, tous ces gens qui sont payés autour du SMIC, quoi, grosso modo, et qui occupent des positions subalternes dans la division du travail. Donc voilà, on pourrait dire d'abord ça. Dans les, il y a... Faudrait décliner beauf au féminin. Hein. C'est, ça, c'est quoi? Ça existe?
Bah, d'ailleurs, le beauf est souvent représenté chez Camus avec sa femme.
Oui, c'est ça. Oui. Chez Camus, effectivement, il représente avec sa femme. Bon, j'en ai pas rencontré beaucoup des comme ça. Hein. Là, je pense que c'est vraiment dans l'ordre du fantasme. On n'a pas vu beaucoup. D'ailleurs, des mecs qui ressemblent sont beaufs aussi.
Non plus.
Quoi. C'est, vous voyez, c'est une espèce de vision stéréotypée, durcie, caricaturée. C'est son boulot, quoi, de faire des caricatures.
Mais
le problème, c'est que, voilà, est-ce qu'on les reconnaît, quoi? Bah, quand on enquête, bof. C'est pas tout à fait évident. Deuxième aspect, si on enquête sur les classes populaires, voilà, des hommes, des femmes qui sont plutôt employées, vous voyez.
Les hommes plutôt ouvriers.
Bon, là-dedans, il y a aussi de la place. Hein, ça, il y a aussi des tas de gens ouvriers, bon, les ouvriers professionnels, etc. Il y en a encore qui travaillent souvent dans des petites boîtes, mais il y a aussi tous les mecs du transport, machin, etc. Ça occupe beaucoup de place, hein, la logistique aujourd'hui dans le monde ouvrier, etc. Donc, on s'aperçoit, vous voyez, professionnellement, c'est un monde assez divers. Bon. Par ailleurs, par rapport à d'autres critères plus sociologiques, si on veut, la première chose qui s'impose aussi à l'œil, c'est on peut distinguer une fraction, comment dire, stable, relativement stable, dans le monde des classes populaires établies, pourrait-on dire, et puis des plus ou moins précaires, précarisés. La précarité, c'est pas rien, hein, vous voyez, le chômage, la précarité, etc. Pour faire vite, on pourrait dire, ça correspond grosso modo aux ouvriers pavillonnaires, établis, stables, stabilisés, et les ouvriers de cité, ceux des cités HLM, etc., qui se trouvent être aussi souvent immigrés. Vous voyez? Bon, donc il y a cette espèce de division aussi, vous voyez, objectivable, qui correspond aussi à des tensions parfois. Parce que, voilà, chez les ouvriers de cité qui se trouvent être des immigrés, c'est aussi là où il y a les problèmes de délinquance, les problèmes de chômage, de précarité prolongée, etc., d'où les thématiques autour de l'insécurité, les assistés, machin, etc. Bon, qui sont, des thèmes qui trouvent un écho facilement chez ceux qui en sont, chez les ressortissants de ces univers-là. Donc, ils peuvent trouver, vous voyez, un écho. Je dis pas que ça n'en a pas, quoi. Vous voyez, il y a des tensions. Est-ce qu'elles se traduisent systématiquement par des comportements racistes, machin, etc.? Bof, je dis pas que c'est absent, mais pas, vous voyez, pas sous cette forme durcie, qui est absurde, quoi, parce que ça, on ne trouve pas ça, très exceptionnellement, je ne sais pas, moi, je n'en ai pas rencontré, hein, j'ai enquêté aussi, comme tout le monde et comme d'autres, mais je n'ai pas vu ça, quoi, bon, vous voyez.
Il y a des écrivains qui réveillent la partie la plus médiocre des individus. Quand vous prenez Flaubert, qui est dans le spectacle, Flaubert a une passion, c'est la bêtise. La définition de Flaubert, c'est qu'est-ce qu'un homme bête, et ça, c'est admirable, c'est un homme qui conclut. Ça, c'est la vraie bêtise organique idiote. Qu'est-ce qu'un beauf? On pourrait chercher pendant des heures. Qu'est-ce qu'un beauf, finalement? Pourquoi on dit d'un tel, j'irai plus dîner chez lui, c'est devenu un beauf? C'est quoi un beauf? C'est un homme qui a, face à la difficulté de l'existence, répondu de manière finale, organique et un peu rétrécie. Et ce thème de la bêtise est infini. Et c'était simplement pour faire de la provocation. Car on aime aussi. C'est-à-dire que tout ça se mêle. C'est-à-dire que quand vous voyez des gens très intelligents, ils vous disent, finalement, dans la vie, de quoi nous avons besoin le plus. C'est certainement pas de l'intelligence, c'est certainement, mais c'est de la force de tempérament, c'est de la force de caractère. Et il y a des gens qui sont très bêtes et qui sont des créatures et des êtres de grande fécondité. Vous voyez, il y a des gens très bêtes, mais qui ont une nature. Les concierges du Voyage au bout de la nuit de Céline sont de grands témoignages de vitalité. Quand Céline dit, en parlant de la tante à Bébert, cette phrase en disant « Il m'aurait intéressé de savoir si elle pensait quelquefois à quelque chose, la tante à Bébert. » Mais non, elle ne pensait à rien.
Fabrice Lucchini sur France Inter, c'était en 2007 dans l'émission Nonobstant. Alors c'est intéressant ce qu'il dit, parce qu'il dit à un beauf, c'est un homme qui conclut, mais quand même, eh ben on l'aime. Bah voilà, en fait, est-ce que la réactivation aussi de la figure du beauf qui définit tout ce qu'on déteste, est-ce que actuellement elle n'est pas en train d'être ressaisie d'une manière beaucoup plus positive ? C'est-à-dire, on le voit à travers certaines manières d'être, comme la mode par exemple, où on va s'habiller avec des chaussettes et des claquettes. Sur France Inter, encore une fois, il y a des sketchs très drôles de l'humoriste Benjamin Tranier où il fait le beauf. Là, on entend Lucchini qui a un succès fou dès lors en fait qu'il parle d'un beauf en mettant dans la même phrase beauf et Flaubert, tout le monde applaudit demain. Donc finalement, est-ce que le beauf n'est pas devenu une figure beaucoup plus positive et aimable, et que maintenant, voilà, le méchant, c'est le facho, c'est le complotiste, c'est l'antivax, par exemple, ou le gilet jaune à un moment donné.
Oui.
Et vous avez 2 minutes pour répondre.
Voilà bien. Écoutez, je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà. Je peux dire ça comme ça. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que, voilà, c'est toujours la même chose, quoi, en fait. C'est toujours la même chose. On attribue à un flou indéfini, mais de fait populaire, parce que c'est ça qu'on ne connaît pas ou qu'on voit de loin dans la brume. Vous voyez, la nuit, tous les ouvriers sont gris, quoi. Bon, voilà, on les voit comme ça de très loin et on leur attribue tout ce qui est le négatif, la bêtise, à commencer par la bêtise, mais aussi des stigmates moraux comme le machisme, le racisme, machin, etc.
L'homophobie.
Je pense que c'est l'homophobie et tout ce qui va avec. C'est-à-dire encore une façon de se glorifier soi-même, de glorifier au fond la figure du bobo qui me semble être aujourd'hui l'espèce de d'héritier lointain de cette petite bourgeoisie nouvelle, du grand duduche, quoi. C'est toujours pareil, quoi. Au fond, alors les thèmes sont les mêmes, hein. Ça n'a pas beaucoup changé, c'est à peu près les mêmes, quoi. L'importation des studies américaines, c'est grosso modo la réimportation sous une forme un peu modifiée de la contre-culture américaine des années 60-70, quoi. Bon, voilà, c'est tout, ça ne change pas beaucoup. Vous savez, la sociologie, voilà, et l'histoire, les sciences sociales, voilà, amènent aussi à se méfier des changements. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, quoi. Tout est toujours pareil. Mais les choses changent très lentement. Très, très lentement. Voilà.
Merci beaucoup, Gérard Mogé, de nous avoir parlé du beauf et de sa portée sociale, sociologique. De vous, on peut lire votre dernier ouvrage paru avec Bourdieu, Un parcours sociologique, c'est aux éditions PUF. Sous votre direction et celle de Willy Pelletier, Pourquoi tant de votes RN dans les classes populaires, c'est aux éditions du Croquant. Et puis, enfin, bien sûr, je l'ai sous les yeux, vous devez lire quand même, pour vous faire une idée, l'intégrale beauf de Cabu. C'est une très belle édition. Voilà, on retrouve tous les textes, tous les dessins, voilà, c'est quand même 50 ans de beaufitude, on peut dire, et c'est aux éditions Michel Lafon. Encore merci à vous, Gérard Mogé.
Merci à vous.
On choisit ses copains, mais rarement sa famille. Bien gonce, mine de rien, qui a marié ma frangine. Depuis, c'est mon beau-frère, alors faut faire avec. Mais c'est pas une affaire. C'est un sacré pauvre mec, mon beauf, il lui a fait 4 bosses pour toucher les allocs. Il fait le coup de la nuit de noces dès qu'elle est plus en cloque. Cette espèce de trou duc qui a fait 10 ans de légion, ses mômes il les éduque à grands coups de ceinturon. Le jour où les cons iront pointer, on le verra au bureau d'embauche, mon beauf. Il a des rouflaquettes, un costard à carreaux, des moustaches, une casquette et des pompes en croco. Il se prend pour un vrai mec, mais il craint un petit peu. Pour tout dire, il est presque à la limite du hors-jeu. Mon beauf, à chaque fois qu'il culbute une collègue de bureau, ou qu'il va se faire une pute, ce ringard, ce blaireau, il dit que c'est pas trompé, que c'est juste pour l'hygiène, et que si sa femme l'imitait, il la sommerait à coups de beigne. Le jour où les cons seront cuisiniers, c'est lui qui préparera les sauces, mon beau.
Et merci à l'équipe de Sans oser le demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troiano, Cyril Marchand et Laetitia Pringuet. À la réalisation, non pas un, non pas deux, mais trois réalisateurs, Vivian Lecuivre, Louise André et Nicolas Berger. Et à la prise de son, Étienne Rouche. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, bien sûr sur le site de France Culture à la page de l'émission ou encore sur l'application Radio France.